Attaque maintenant avec Kotkaniemi. Passe à ligne 2. Kotkaniemi, la belle passe. Et le goal ! Charles Ludo ! Quelle belle passe de Jesperi Kotkaniemi !
Et mine de rien, le jeune Finlandais a déjà 9 points. C'est, on peut pas dire là, qu'il cartonne à chaque match, mais de plus en plus, là, me semble réussir à se distinguer dans certains matchs, au point, je pense, d'aller chercher, comment dirais-je, une certaine adhésion. Je sais pas si c'est le bon choix de mot. Admiration serait-ce trop fort. Philippe Quentin, bonsoir.
Salut Mario. Hein, adhésion, très certainement.
Adhésion, oui, oui, ouais, certainement.
Admiration, on va attendre
ça
un peu.
Ça s'en vient, encore? Ça s'en vient. On va se garder une petite gêne. Hein?
Ouais, mais tu sais,
on aime
Mario,
ça les athlètes spéciaux.
Ben c'est sûr, puis ça fait tellement longtemps qu'on en parle, toi et moi, quand on regarde un match canadien, qu'on le regarde à la télévision, qu'on soit sur place, qu'on l'écoute à la radio, c'est le fun quand il y a un joueur qu'on a vraiment le goût de voir
vraiment,
jouer.
Oui.
Et on n'a pas eu ça à Montréal depuis le départ de Piqué Subban. Mm-hmm. Et là, c'est Kotkaniemi qui est en train de remplir ce mandat-là. Moi, je me surprends à écouter les matchs, à toujours être très attentif quand il est sur la patinoire, parce qu'il est en train de montrer des signes d'un gars qui a tellement de talent. Le but qu'on vient d'écouter, oui. Ça s'est passé tellement rapidement, la passe qu'il fait à Hudon, qui a fait lui-même un très beau jeu pour déjouer Marc-André Fleury. Mais quand même, c'était de toute beauté de voir ce jeu-là. Un but tellement important. En plus, c'était 2-0 à ce moment-là pour Vegas. Ça permet aux Canadiens de revenir dans la rencontre. Et quelques instants plus tard, quelques minutes plus tard, il va marquer à son tour pour donner l'avance 3-2 aux Canadiens. Il a connu un match splendide et je trouve qu'il est en train de changer l'identité du Canadien.
Et de quelle façon, Philippe, quand tu dis ça?
Par l'enthousiasme. L'enthousiasme et le fait qu'on change de discours par rapport aux Canadiens. Et c'est beaucoup grâce à lui. Souviens-toi, le camp d'entraînement a commencé sur une note maussade. Il y a eu toute cette question avec Max Pacioretty. Sera-t-il échangé? Oui, non. Finalement, il est échangé juste avant le tournoi de golf. Puis là, il y a un peu de récrimination à gauche, à droite. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Le camp d'entraînement commence. Kotkaniemi lui-même déçoit un peu dans le pré-camp, le camp des recrues. On se demande un peu si le Canadien a fait un bon choix. Et là, tranquillement, les choses se mettent à changer. Puis à chaque séance d'entraînement, on constate qu'il est vraiment bon puis qu'il accomplit des choses que d'autres n'ont pas vues. Et il change à lui seul, Mario, le discours autour du Canadien pendant le camp d'entraînement. Et là où il y avait une énorme dose de négativité, si le mot se dit, ou de négativisme, qui était transposé de la saison précédente, eh bien, ça s'est en train tranquillement de se métamorphoser en des commentaires plus positifs, puis dans une situation où tout le monde avait hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire. Et là, le Canadien annonce la bonne nouvelle, ils vont le garder avec l'équipe, et depuis ce temps-là, il se débrouille, ma foi, assez bien, quitte à peu près une fois par semaine, pas tous les matchs, comme tu le disais, d'entrée de jeu, là, mais une fois par semaine à faire un match où son impact est déterminant. Mm-hmm. Et ça,
contribue.
Pour moi, c'est déjà beaucoup.
Il contribue et ça lui permet de se sentir utile et de ne pas être là juste parce que c'est le petit dernier à qui on veut donner du temps de glace pour le développer. Là. Il contribue directement au résultat. Samedi, le dernier exemple en lice. Et j'aime que tu reviennes au camp d'entraînement parce que c'est vrai qu'il agit comme une espèce de bouclier anti-cynisme. Et je l'ai au fait que celui qui devient l'autre raison là, de s'emballer un petit peu avec le Canadien, son offre offensive, Max Domi, a été suspendu pendant le camp d'entraînement. Il n'a pas disputé les matchs préparatoires. Alors, c'est vrai que la présence de Kotkaniemi a changé la perception. Et là, que dire de Domi, 10e pointeur de la Ligue? Il faut remonter à Kovalev pour voir un gars qui s'illustrait offensivement de cette façon-là. Hein. C'est pas rien.
Qui l'eût cru? C'est vraiment étonnant. Je pense que en laissant aller Alex Galchenyuk, Marc Bergevin a réglé un problème dans l'équipe là. Mais à ce moment-là, souviens-toi, c'était ce que moi j'ai appelé la théorie du changement d'adresse. On espérait que le changement d'adresse profite aux deux équipes. Alors, un joueur à Montréal, Galchenyuk, qui n'a pas rempli les attentes pendant plusieurs années, et Domi, qui avait également un choix élevé de première ronde, qui connaissait pas la carrière espérée jusque-là, même si sa carrière était encore bien jeune en Arizona. Alors, un échange, un pour un, changement d'adresse. Théorie, âge, mais je me souviens même que Marc Bergevin en avait parlé dans son point de presse en commentant la transaction au Centre Bell. Des fois, un changement d'adresse, ça fait qu'un joueur va retrouver une nouvelle énergie. Mais dans le moment, c'est en plein ce qui est en train de se passer d'un côté de la transaction, par exemple, d'un seul côté. On voit pas encore Galchenyuk briller avec les Coyotes. Mais,
ça ressemble à un home run en ce moment. Mais l'échantillon est mince, mais là, en ce moment...
Ça ressemble à deux coups de circuit, là.
T'inclus Tatar ou
Ben, moi, j'inclus Tatar. C'est-à-dire, Kotkaniemi, c'est un choix repêchage. Le Canadien a, semble-t-il, fait un bon choix. Mais non, je parle des deux transactions. C'est clair que l'échange de Domi et Galchenyuk est nettement l'avantage du Canadien. Et franchement, on voit mal comment ça va changer. Nous, on le connaît, Galchenyuk. Est-ce que quelqu'un pense encore qu'Alex Galchenyuk, après l'avoir vu jouer toutes ces années, qui va devenir un joueur dominant match après match après match dans la Ligue nationale? Parce qu'il a maintenant joué en Arizona. Moi, j'ai mes doutes et je pense que la plupart des gens qui... alors que Domi, lui, on savait pas. Mais là, dans le moment, il nous prouve que vraiment, il y a quelque chose de spécial. Et l'autre transaction, c'est le départ de Pacioretty, bien sûr. Pacioretty, peut-être qu'il va faire comme toutes les autres saisons. Tout à coup, il va exploser puis il va marquer beaucoup de buts dans un court laps de temps. Il va peut-être mériter le joueur le plus utile dans la semaine, la première étoile de la semaine ou des choses comme celle-là. Mais bravo, je suis convaincu qu'il va finir par marquer sa part de buts. Mais il en reste pas moins que le jeune joueur que les Canadiens ont obtenu, Suzuki, va super bien dans le hockey junior. Il était en train vraiment de montrer que c'est tout un joueur de hockey. Et Tatar, lui, fait le boulot jusqu'à maintenant, jusqu'à aller marquer le but gagnant contre son ancienne équipe. Alors, c'est quand même deux transactions qui tournent nettement à l'avantage de Marc Bergevin et du Canadien.
Que penser du règlement entre les joueurs, le syndicat des joueurs de la Ligue nationale de hockey, des anciens joueurs par rapport aux commotions cérébrales et la Ligue nationale? C'est pas un dossier, je dois t'admettre, que j'ai eu le temps d'éplucher de fond en comble aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a un règlement moyen d'autour d'une vingtaine de mille dollars par gens qui ont été victimes? Est-ce que c'est considérable? Comment t'analyses ça?
Ben, c'est pas un gros montant.
C'est pas un gros montant,
Non, c'est pas un gros montant. C'est une entente globale d'environ juste un peu moins que 19 millions de dollars. Alors, c'est sûr que les joueurs, c'est quand ils ont entrepris le recours juridique, c'est pas ça qu'ils espéraient. Ils espéraient beaucoup plus que ça. Mais maintenant, dans la façon dont tout ça s'est produit, il y a eu des décisions qui ont joué contre eux, notamment une décision qui a pas autorisé un recours collectif. Alors là, ça devenait des dossiers individuels. Puis là, finalement, un tribunal qui a dit: essayez donc de vous entendre. Okay? Essayez de vous entendre. Au mois de septembre, le tribunal a donné le mandat à la Ligue et aux représentants des joueurs de s'entendre. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Il y a un accord, mais tu sais, on ne parle pas du tout d'un accord semblable à celui qui a valu aux anciens joueurs de la Ligue nationale de football beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'était un accord de centaines, ça frôlait le milliard de dollars. Alors, c'était complètement autre chose. Mais la situation n'était pas la même. D'abord, les joueurs de la Ligue nationale de football avaient un recours collectif. Ceux de la Ligue nationale n'en avaient pas. Mais au-delà de ça, c'est toute la place que le débat a pris sur la place publique. Alors, souviens-toi, dans le dossier de la Ligue nationale de football, Mario, on oublie un peu, mais il y avait eu ce fameux documentaire là, qui a été présenté à PBS où on racontait les malheurs des joueurs de la Ligue nationale de football qui avaient été victimes de commotions cérébrales, comment leur qualité de vie avait été minée complètement. On en a même fait un film.
Le film Concussion.
Voilà, exactement.
L'histoire du pathologiste Malou, là, notamment.
C'est ça, exactement. Puis il y avait eu aussi quelques années auparavant, là, au moment où tout ce dossier-là commençait à faire beaucoup jaser, il y avait eu les grands patrons de la Ligue nationale de football, le commissaire, qui avait été obligé d'aller témoigner devant le Congrès américain. Et ça avait été une séance très dure pour la Ligue nationale de football et ça avait donné une résonance partout aux États-Unis au dossier des anciens joueurs. Donc, c'était un sujet qui était dans l'air du temps, qui générait beaucoup de commentaires, qui avait un très, très fort suivi médiatique. C'était une histoire là d'actualité brûlante et ça a été le cas pendant plusieurs mois jusqu'à temps qu'il y ait une conclusion. Dans le cas du hockey, ça n'a pas été ça. On en a très peu parlé. Ça n'a pas fait véritablement les manchettes. Oui, quand le recours a été déposé, mais le recours initial, il a été déposé il y a déjà 5 ans. C'était en novembre 2013. Ça fait que là, à travers toutes les arguties juridiques, on s'est un peu perdu dans tout ça. Puis finalement, là, on apprend qu'il y a un accord, mais encore une fois, c'est un accord qui n'est pas extraordinaire pour les joueurs. Moi, je dis quand même bravo là, aux joueurs qui se sont battus pour au moins obtenir quelque chose. Mais encore une fois, à mon avis, la Ligue nationale de hockey a manqué tellement de leadership dans le dossier des commotions cérébrales. Ça, je trouve ça vraiment consternant. Mais alors, ils auront un petit pécule, mais c'est une victoire, mais c'est une courte victoire.
Maintenant, quel sera le prochain rebondissement dans le dossier de la candidature olympique ou non de la ville de Calgary?
Prochain rebondissement, demain autour de minuit peut-être. Je sais pas si c'est minuit notre heure ou minuit heure de Calgary. Ça dépendra comment le vote ira. Mais c'est jour de référendum demain à Calgary. Donc, les citoyens qui ont déjà commencé à voter là, par anticipation peuvent aller se prononcer demain à savoir est-ce qu'ils sont oui ou non d'accord avec l'idée que la ville de Calgary, leur ville, Belle, donc, soit candidate au jeu de 2026. Alors, c'est, je peux dire que tous les yeux de la direction du Comité international olympique à partir du président Thomas Bach seront tournés vers les résultats de ce référendum-là demain. C'est énorme comme enjeu. C'est énorme pour tellement de gens, Mario. C'est énorme pour le Comité international olympique qui, s'il subit une nouvelle rebuffade, après des référendums perdants dans tellement de villes en Suisse, il y a plusieurs villes, Davos-Saint-Moritz deux fois, Sion une fois, en Allemagne, Munich, en Pologne, Cracovie. Il y a tellement de villes qui se sont prononcées contre le fait que des citoyens qui se sont prononcés contre le fait que leur ville soit candidate au jeu. Là, ils espèrent, le Comité international olympique, que Calgary dise que ce soit enfin un oui. Mais là, il y a eu un sondage qui a été fait par la CBC il y a quoi, à peu près une semaine. C'était plutôt le non qui est en avance, mais c'était un très petit échantillon. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Mais si c'est encore un non, ça place vraiment le Comité international olympique dans l'embarras, parce que les deux autres villes qui sont candidates à l'heure actuelle, une en Suède, c'est Stockholm, et l'autre, c'est une candidature conjointe de Milan et Cortina d'Ampezzo en Italie. Ce sont deux candidatures boiteuses parce qu'il n'y a pas encore d'appui du gouvernement central, ni dans un cas, ni dans l'autre. Et semble-t-il que les gouvernements centraux ne sont pas très intéressés à aller de l'avant. Et le choix de la ville hôtesse des Jeux olympiques de 2026, ça se fait au printemps prochain. Donc, c'est très, très, très bientôt. Alors, il arrive quoi si c'est non à Calgary, puis ici, les candidatures de Milan, Cortina d'Ampezzo et de Stockholm ne vont pas au-delà là, d'un projet. Le CIO est dans l'embarras. Alors, donc, gros moment pour le CIO, gros moment pour la ville de Calgary. Écoute, j'ai suivi ça de très près. J'ai lu le Calgary Herald sur le web. J'ai écouté toute la séance au conseil municipal il y a deux semaines maintenant. Vraiment, la ville est déchirée à l'heure actuelle entre les camps des deux partis. Sur Twitter, c'est les arguments des uns ou des autres.
Et c'est pourtant une ville olympique. C'est une ville qui a déjà vécu les Jeux olympiques. Comme quoi, l'héritage, finalement, n'a pas fait l'unanimité.
Oui, bien, l'héritage, ça fait longtemps aussi. C'est 1988. Ouais. Les coûts, ça n'a plus aucun rapport. Là. C'est 10 fois plus élevé aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y a aussi le fait que la candidature a été quand même bien menée au début, mais ils ont commis une erreur. C'est qu'ils avaient promis, la ville de Calgary et le maire Nancy, ils avaient promis que le plan financier au complet serait déposé devant les contribuables un mois avant le référendum. Et ça, ils n'ont pas tenu parole. C'est arrivé quoi, deux semaines avant le référendum? Les gens n'ont pas aimé ça. Ils se demandent, coudonc, est-ce qu'ils nous cachent des choses? Est-ce que tout est bien ficelé? Ça n'aide pas tellement le camp du oui.
Les promesses non tenues, ça vient toujours te rattraper. Philippe, merci pour cet excellent résumé de deux dossiers fort intéressants, notamment les commotions et le dossier olympique. On se reparle cette semaine, mon cher.
Tout à fait, Mario. Bonne
merci,
soirée.
À bientôt. On revient avec Danny Dubé depuis Edmonton.